Je l'ai dit, mon propos sera celui d'un historien. Et c'est vrai qu'il y a plutôt tendance aujourd'hui à mélanger les genres. Moi, je m'en tiens à l'histoire, c'est ce que je crois un peu savoir faire. Et dans le cadre de cette conférence, il y a trois mots sur lesquels j'ai essayé d'ordonner le propos parce que c'est un vaste sujet. Il y a l'histoire, il y a la mémoire et il y a la départementalisation. J'ai eu tout à l'heure, je crois, une maladie, parlera de rapport histoire et mémoire. Je vais en dire donc un mot plus faible, concentré, parler de la départementalisation. D'abord, je crois qu'il faut, par les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, où il y a beaucoup de mémoire, un flot mémoriel très fort, peut-être trop de mémoire, trop d'oubli, il faut, et nous en avons besoin, de l'histoire. L'histoire, c'est un récit particulier, car il se singularise par le fait qu'il entretient un rapport particulier, spécifique avec la vérité. Et que la construction narrative de l'histoire, c'est la reconnaissance d'un passé qui a été, sans vouloir faire de l'épistémologie, de la réflexion et d'en faire appel à Léopold Ranke, notre objet, c'est d'essayer de comprendre comment les contemporains ont vécu 1946. Ce n'est pas de nous interroger comment aujourd'hui nous voudrions qu'ils aient vu, qu'ils aient construit 1946. C'est comment les choses se sont passées. Et les mots de l'époque, ce ne sont pas obligatoirement ceux d'aujourd'hui. Donc l'histoire, c'est un rapport entre un présent et un passé. Et l'historien, c'est un petit bonhomme qui se promène sur le fil du temps, qui va vers le passé, qui ramène des données comme une fourmi et qui les travaille dans le contexte du présent, mais ne doit se laisser submerger ni par la mémoire, ni par le présent. On n'écrit pas le passé en fonction du présent, surtout pas, même si de temps en temps, on nous y invite. Ce n'est pas notre tâche. De même, nous n'avons pas à écrire au même rythme que les médias. Nous n'avons pas à courir aussi vite que les médias qui nous tendent le micro et être partout à la fois. Ça, ce n'est pas le rythme de l'histoire. L'histoire, elle a son rythme de construction. Il faut du temps pour aller aux archives. Il faut du temps pour fouiller. Il faut du temps pour écrire. Et ce n'est pas la même chose que de répondre à une question qui est déjà dépassée parce que le journaliste pense déjà à la suivante et que la réponse, il n'en a des fois pas grand-chose à faire. L'historien, pour reprendre cette expression que je n'aime bien, qui n'est pas de moi mais de François Bédarida, c'est un chercheur de sens et c'est un passeur de temps. Et dans son rapport avec la mémoire, l'historien est parfois, pour reprendre l'expression de Pierre Laborie, un trouble mémoire. En ce sens où il prend la mémoire comme un objet, comme des matériaux, et que la mémoire n'est en rien l'histoire. Ce sont deux mots opposés, même si aujourd'hui on mélange bien l'un et l'autre. Qu'est-ce que la mémoire, rapidement? La mémoire, c'est une étonnante polysémie, puisqu'elle est faite de segments, de recoupements entre l'individuel et le collectif, et qu'elle intéresse aujourd'hui à la fois bien sûr l'historien, mais le philosophe, le psychologue, l'ethnologue, le physicien, le chimiste, et qu'elle interpelle tous les secteurs de la société. Nous sommes dans un moment où il faut tout sauvegarder, comme avec son ordinateur, tout garder en mémoire, comme si nous n'aurions pas le droit à l'oubli. Comment peut-on vivre sans l'oubli? Et on nous a fait un mandat impératif, en quelque sorte, en permanence, qui est l'expression « devoir de mémoire ». Il n'y a pas de devoir de mémoire. Il y a, par contre, trop souvent des abus de mémoire. Et devant une telle abondance de mémoire, l'historien ne peut pas rester sourd à ses demandes, il ne peut pas rester indifférent, mais il a des responsabilités et des obligations. Une de ses obligations, lorsque Mnémosyne rencontre Clio, c'est le doute examinateur. Et de ce point de vue, le texte fondateur sur les rapports histoire-mémoire renvoie souvent à ce qu'a pu écrire justement Pierre Nora dans Les lieux de mémoire. Une des dernières citations que je ferai en préalable, c'est celle de Henri-Irénée Maroux, lorsqu'il rappelle que l'histoire, c'est une connaissance du passé scientifiquement élaborée. C'est-à-dire qu'elle doit renvoyer à des justifications, à des notes de bas de page, comme l'on dit dans les ouvrages. Et que chaque lecteur doit pouvoir mettre ses pas dans les pas de l'historien pour comprendre sa méthode, voir d'où il part et là où il arrive pour justifier les choses. Et qu'à aucun moment, l'historien ne doit abandonner cette prétention qui est la sienne, c'est-à-dire le principe de vérité, car sinon ce serait laisser le champ libre à toutes les falsifications, à tous les faussaires, et l'historien est bien dans sa fonction lorsqu'il examine les traces et les mémoires comme des objets de l'histoire. Ce préalable posé, j'en viens à la départementalisation. Tout d'abord, dire que le travail de l'historien, c'est mettre ses pas aussi, si je peux m'exprimer ainsi, dans ceux des autres. Et que le travail sur la départementalisation, il s'inscrit dans une historiographie. Il y a eu déjà des travaux. Il y a eu déjà des études qui ont été faites. Et qu'il me paraît important, lorsqu'on s'exprime, de citer les autres, parce qu'il faut lire les autres, c'est aussi une des tâches des historiens, d'écouter, de comprendre, d'aller aux archives, et de faire référence aux idées, aux débats. Vous évoquiez à l'instant vos propres travaux de SS. Eh bien, en effet, ces documents-là, il faut les connaître, les avoir lus, aller voir ce qui a pu être écrit ici, à Paris, mais aussi, bien sûr, à La Réunion, mais aussi aux États-Unis, mais aussi au Québec, là où on travaille. Et on travaille beaucoup sur l'océan Indien et sur le sud-ouest de l'océan Indien. Et je dois dire que depuis 5 années, au moins les travaux sur l'histoire du temps présent de La Réunion me paraissent être de plus en plus nombreux. La thèse de Gilles Gauvin en est un des exemples les plus pertinents. De nombreuses publications sur la vie politique, des colloques aussi, faits par l'Association historique internationale de l'océan Indien, colloque sur les années 60, c'était en 2002. La revue historique de l'océan Indien, qui existe maintenant depuis plusieurs années, qui publie 1 à 2 numéros par an. Les ouvrages sur le régime de Vichy, sur la période Michel Debré, le colloque que nous avons fait récemment, vous l'évoquiez avec les publications de la RCC sur la 4e République, 1946-1958, de nombreux articles, de nombreux travaux de thèses. Rien que cette année, se tiendront 2 thèses qui sont sur l'histoire du temps présent de La Réunion. Et puis, au même moment que nous parlons, avec un petit peu de décalage, nous sommes en train de mettre en place le Centre de recherche sur les sociétés de l'Océan Indien et la mairie de Saint-Paul, des conférences historiques qui se tiennent à Saint-Paul sur le thème cette année de l'histoire de La Réunion. Bref, il y a du travail, il y a des recherches, et il faut bien sûr continuer parce qu'il faut toujours relire les sources, reprendre les documents. J'ai voulu prendre le sujet à travers la thématique de l'intégration, à travers la thématique La Réunion 1946, une décolonisation française. J'ajouterais une décolonisation bien française, ou plus encore intra-française, qui balaie, de ce point de vue-là, beaucoup de thèmes un peu simplistes que nous avons vus durant l'année 2005 et 2006, liés bien sûr à la loi du 23 février 2005. La colonisation était-elle positive, négative ? L'histoire, ce n'est pas, on dit souvent, le calcul d'un barycentre entre une masse positive et une masse négative. L'histoire, ce n'est pas le bien, le mal. L'histoire, ce n'est pas le jugement. Et l'historien, ce n'est pas le procureur. Ce qui est plus intéressant, c'est de prendre des exemples, des cas, et de voir comment les choses se sont déroulées. Et de ce point de vue-là, le cas de La Réunion, comme vieille colonie, est très intéressant. Si nous voulons étudier la départementalisation, mars 46, comprendre le 19 mars, il faut installer le débat dans la comparaison avec les autres colonies, l'installer dans les rapports avec les autres îles du sud-ouest de l'océan Indien, l'installer dans la comparaison avec les parcours des autres, je mets les guillemets, vieilles colonies, mais aussi regarder le contexte international de l'époque et la France de 42-46. Car l'histoire de La Réunion, entre 1942 et 1946, elle est éminemment liée à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la fin du régime de Vichy, à l'histoire du gaullisme et de la résistance, à l'histoire de la reconstruction française d'Alger jusqu'à Paris, à la libération, à la réorganisation du pays, aux nombreuses conférences qui se sont tenues aux États-Unis, et bien sûr celle de Brazzaville, et aussi, surtout, à l'histoire politique des forces françaises entre le mois d'octobre 45 et mars 46. Quelle est la situation de La Réunion en 1942 ? Elle a en mémoire, lorsque la libération est là, lorsque les léopards arrivent en novembre 42, un passé qui est celui de sa situation sous la Troisième République. Qu'est-ce que La Réunion sous la Troisième République ? Une île qui a une ambition, être une colonie colonisatrice, être cette seconde métropole française dans le sud-ouest de l'océan Indien. Et en même temps, l'idée de département est une vieille idée à La Réunion. J'aime bien l'expression de Prosperet lorsqu'il parle de concrétisation d'un désir d'être département. Cela nous renvoie à la Révolution française, et donc là aux travaux du professeur Claude Vanquet. Cela nous renvoie à Sarda Garriga, 1848, lorsqu'il s'exprime, je cite, « Quand cette terre éminemment française ne portera plus d'esclaves, elle formera, j'en ai l'assurance, dans la grande unité nationale, un département d'outre-mer, gouverné par les lois générales de la métropole. 17 octobre 1848. Cela renvoie à la géographie écrite par Jules Hermann, dans laquelle il insiste sur la Réunion destinée à devenir un département. Cela renvoie au discours des professeurs d'histoire, du procureur, du proviseur, lorsqu'on rend les prix. On se souvient les uns les autres, les plus anciens, de la distribution des prix. C'était un grand moment pour nous. Eh bien, pensons sous la Troisième République, lorsqu'on la distribution des prix dans ce lycée colonial, et là on parle du département. Cela renvoie bien sûr plus encore en 1942 au souvenir des années 30, le Front populaire, 36-37, les idées de la départementalisation, les forces, la Ligue des droits de l'homme et son histoire, l'histoire de la franc-maçonnerie, l'histoire du syndicat national des instituteurs, bien sûr l'histoire du syndicat du chemin de fer et des dockers, et ces images que nous avons peut-être tous à l'esprit pour les avoir vues. Ces manifestations dans les rues du port, avec cette banderole, La Réunion, département français. En 1942, l'île de La Réunion sort de la guerre, sort de 2 années de blocus, avec une situation totale sous-développement, de misère. Il y a un adjectif qui revient souvent dans les livres, il serait toujours intéressant de savoir comment il est né, qui a le premier utilisé ce mot, c'est « l'île est exsangue ». Un adjectif qu'on voit rarement ailleurs, mais pour La Réunion, vous le trouverez souvent. L'île est exsangue, elle est épuisée. Taux de mortalité infantile, un des plus élevés du monde. Il y a eu du sous-développement, problème de santé, problème d'économie, d'éducation. 220 000 habitants à peu près. Et 145 pour 1000 enfants qui décèdent avant d'atteindre 1 an. On montera à 230 pour 1000 en 1948. Ce sont des indicateurs d'un sous-développement profond qui vont toucher l'île de La Réunion jusqu'au milieu des années 50. C'est cela aussi la singularité. C'est après le rythme et l'accélération d'un lieu sur la planète qui va passer de ce sous-développement à la région ultra-périphérique que nous connaissons actuellement. La ration alimentaire a chuté. En 1938, elle était de 14 kilos, elle est passée à 9 kilos en 1945. La rentrée des classes a été repoussée, par exemple en 1944. Il y a eu 75 jours de vacances parce qu'on ne peut pas reprendre les classes. Situation sanitaire n'est pas bonne, mais en même temps, on ne trouve pas de tissu, on ne trouve pas de moyens pour écrire, pour travailler. Tous ces éléments, je les ai repris dans une source qui est très intéressante, c'est le journal officiel de l'île de La Réunion. Parce que vous avez là le récit précis de la vie quotidienne de l'île de La Réunion de 1942 jusqu'en 1946. C'est à la fois riche d'intérêt et en même temps, on apprend beaucoup de choses. Par exemple, on apprend le nom de tous les poissons de l'île de La Réunion, puisque ces poissons, ils étaient vendus différemment, la tête, ou la queue, ou le milieu. On a tout le détail, selon qu'on l'achetait à tel ou tel endroit de l'île, on a son prix, et tout ça en 5 catégories. Tout est réglementé, parce qu'il faut réorganiser la vie après la situation de blocus. Il faut la réorganiser aussi politiquement. Et de ce point de vue-là, le journal officiel est aussi intéressant, parce que sur la même page, le 4 décembre 1942, vous avez 2 feuillets. Un feuillet qui marque la cessation des fonctions de Pierre Aubert. C'est Vichy qui s'arrête. Et puis juste un espace typographique, c'est la colonie gaulliste qui commence. Et là, nous avons en même temps la situation politique et nous voyons bien la volonté du gouverneur, André Capagori, de ne pas faire vivre à l'île l'épuration. On tourne la page de Vichy, mais on la tourne sans la lire. Et on verra bien, puisqu'on parle mémoire, que tout ça remontera. Le souvenir de Vichy, le secrétaire général, Rivière, de la politique d'Aubert. Et cela remontera jusque dans les débats en 1944, l'Assemblée consultative, mais après en 1946 à l'Assemblée nationale. Cette question de l'épuration sera très présente dans la presse réunionnaise en 1946, quels que soient les journaux. La Réunion est épuisée, exsangue aussi parce que le cyclone du 10 et 11 avril 1944 a fait 16 victimes. Et que le gouverneur André Capagori exprime à la population les choses de manière claire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter et attendre du gouvernement français la moindre aide. La départementalisation, elle se comprend au regard de cette situation. Car rapidement va s'opérer une adéquation entre la situation de misère et l'espoir qu'un changement de statut peut régler la situation. Passer de colonie à département, et nous aurons, je reprends les mots, et nous aurons là une voie, une possibilité de changer les choses. Les choses, elles vont évoluer de 1943 jusqu'en 1945, si on reprend ce découpage, d'abord dans le contexte national et international. Contexte national et local, c'est la remise en forme et la réinstallation du Conseil général. Le Conseil général se réinstalle. Je disais tout à l'heure des archives, des travaux. Eh bien, en ce moment, l'étudiante en master travaille sur la renaissance du Conseil général. Elle reprend les sources au détail, jour par jour, pour voir de quelle manière les élus réapparaissent, quels sont ces élus, quelles sont les figures qui dominent le Conseil général, quels sont les débats qui sont présents. À côté du Conseil général, il y a l'acteur, le gouverneur. Et il y a un troisième acteur, c'est le délégué Michael de Villèle, qui va être élu pour représenter la colonie Réunion à l'Assemblée consultative d'Alger. Nous en reparlerons tout à l'heure, parce que Michael de Villèle est présent à la conférence de Brazzaville et qu'il sera présent dans la vie politique jusqu'aux élections municipales de 1945. À côté du contexte national, il y a le contexte international, c'est celui des idées de la décolonisation, porté par les Américains, porté par le président Franklin Delano Roosevelt. C'est la conférence de San Francisco, et c'est en janvier 1944, la conférence de Brazzaville. Je n'insiste pas sur le discours du général de Gaulle. Par contre, j'insisterai sur le fait que, revenant de cette conférence, le gouverneur, comme le délégué Michael de Villèle, ne parle pas d'un changement de colonie à département. Par contre, on songe à améliorer la colonie. Et de ce point de vue-là, il est intéressant, pour bien comprendre la vie quotidienne et l'histoire de l'île de la Réunion, que le gouverneur, dans son discours, fixe cinq objectifs, que je vais citer rapidement, qui montrent bien où l'on est et où l'on veut aller, et l'état de la colonie. D'abord, il demande l'électrification générale de l'île, au regard de la situation catastrophique. Il demande la construction d'un port à Saint-Denis. Il demande l'électrification et la modernisation du chemin de fer. Il demande l'amélioration des chemins ruraux. On rappelle qu'il y a à peine 40 km de route bitumée. Et puis, cinquième point, qui nous amène toujours à notre rapport entre passé et présent, il demande l'organisation du tourisme à La Réunion. Nous sommes en 1944. Et je peux vous dire que son intervention sur le tourisme à La Réunion, elle n'a pas pris une ride. Lorsqu'il demande de construire deux routes touristiques dans la région du Volcan et du Piton des Neiges. Lorsqu'il demande d'améliorer la présence d'hôtels, d'auberges. Lorsqu'il considère que les sources thermales sont une source évidente d'appel touristique. Lorsqu'il dit, là, y voir une source de profit considérable qu'il convient d'exploiter pour La Réunion. Lorsqu'il demande de faciliter la rapidité des déplacements de la métropole jusqu'à La Réunion. J'en passe. Mais derrière cette modernisation, c'est la colonie qu'il s'agit de moderniser. Et non de créer un département. Par contre, une voix s'est fait entendre à l'Assemblée consultative. C'est celle d'Albert Darnal. D'Albert Darnal, nous en avons parlé dans nos ouvrages l'un et l'autre. Albert Darnal, c'est le délégué de la Guyane qui, le 14 juin 1945, fait une proposition qui consiste à inviter le gouvernement à transformer, je cite, en département les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane. Donc il reprend le flambeau des idées de 36-37. Cette proposition restera à l'état de proposition, mais nous voyons bien là que cette démarche et cette idée d'une vieille colonie plus ancienne que le comté de Nice, plus ancienne que la Corse dans son appartenance à la France, mérite, au regard en plus de la situation internationale, d'être raccrochée à sa métropole. À La Réunion, l'accélération du souffle départementaliste va venir avec le temps des élections. L'année 1945, c'est le temps des scrutins électoraux, des élections municipales, des élections cantonales, qui voient la confirmation de la place du Conseil général, et des élections à la première assemblée constituante. Et de ce point de vue-là, ces élections constituent une rupture au regard des trois forces que j'ai indiquées tout à l'heure, gouverneur, délégué Michael de Villèle et ancien Conseil général. Car il va faire émerger d'autres figures et d'autres voix. Quand je dis d'autres, c'est au regard de celles que je viens de citer. Par contre, ces figures sont ancrées déjà dans le passé, c'est-à-dire elles font partie de la génération des années 30. C'est important à comprendre que la clé générationnelle de 1945-46, elle se trouve en partie dans cette fin de Troisième République. Ces élections de mai 1945, elles ont été souvent étudiées, donc je ne rentrerai pas dans le détail, juste pour rappeler que pour la première fois, les femmes participent. À La Réunion, les élections sont repoussées de quelques jours parce qu'un cyclone vient de nouveau frapper l'île, qu'il y a une situation d'affrontement autour de deux pôles, sont connus, c'est d'une part le CRADS, C-R-A-D-S, Comité Républicain d'Action Démocratique et Sociale. C'est surtout le mot social et démocratique, je crois qu'il faut retenir. Il est né en 1945, sous l'égide essentiellement du docteur Raymond Vergès. Il rassemble des syndicalistes, des membres de la Ligue des droits de l'homme, les militants de gauche, mais aussi des gens qu'on mettrait dans le camp progressiste. Ils vont par la suite, d'ailleurs, dans leur cheminement ou leur parcours, comme M. Ropiquet, être gaulliste. C'est un comité, parce qu'il n'y a pas, et c'est un point important, à la Réunion, avant la départementalisation, de forces politiques organisées. Il n'y a pas de parti structuré. Il n'y a pas de parti communiste, il n'y a pas de parti radical. D'ailleurs, des représentants, il y a probablement des gens qui ont des liens avec le Parti communiste français fort, structuré, qui ont cherché à avoir des contacts. Et de ce point de vue-là, pour en savoir plus, il nous faudra l'ouverture qui commence à se faire des archives du Parti communiste français. Et pour le chercheur, la liberté, bien sûr, d'y avoir accès et d'avoir accès à tous les documents. Et le second pôle de la vie politique, c'est l'URDC, l'Union républicaine démocratique et chrétienne, représentée autour de figures, celles d'Alexis de Villeneuve, de Marcel Vautier, de Dominique Sauget, entre autres, qui ont un positionnement pour simplifier, proche du MRP, du mouvement des Républicains populaires, et comme globalement dans toute la France, même donc dans les colonies, se situe un peu plus à droite politiquement que la direction du MRP. Cette Union républicaine démocratique et chrétienne, elle est aidée, soutenue par l'Église catholique, qui appuie sa démarche, et qui l'appuie d'ailleurs grandement dans cet essai de gagner l'électorat féminin. Cela a été étudié dans un colloque en 2001 sur la place des femmes dans le sud-ouest de société de l'océan Indien, et l'on voit par exemple les articles de Dieu et Patrie, qui essayent d'expliquer aux femmes qu'on ne peut pas être communiste et catholique, qu'il y a un catéchisme bien précis, un catéchisme électoral, qu'elles doivent aller d'ailleurs récupérer leur mari s'ils sont partis trop vers le CRADS. Reste que ces élections municipales, vous savez, elles vont ancrer la victoire du CRADS et donc le souffle départementaliste dans les grandes villes de la colonie. Ça, c'est le premier temps. Le second temps, celui des élections cantonales en octobre 1945, c'est la même logique, c'est la même dynamique, avec 31 sièges sur 36, le CRADS conquiert le Conseil général. Et troisième temps, donc dans la reconstruction au regard d'un tempo qui est celui de l'histoire et de la vie politique française, c'est l'élection des premiers députés à la première Assemblée constituante, les deux figures, donc Léon de Pervenche et Raymond Vergès. Et nous sommes là en octobre 1945. Comment est-ce que ces deux députés, ces deux élus, vont arriver avec d'autres à cette proposition de loi qui installe le 19 mars dans le journal officiel la départementalisation. Ces deux élus, ils partent, vous le savez, avec l'étiquette CRADS, et quelques jours après, lorsqu'ils sont à Paris, ils entrent dans le plus fort groupe politique français de l'époque, car encore une fois, pour comprendre les contemporains et pour comprendre ce qui se passe en 45-46, il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. Et le plus fort groupe, c'est le Parti communiste français. C'est, entre guillemets, le parti des fusillés. C'est Maurice Thorez qui revient, la négociation avec le général de Gaulle. C'est un parti qui se situe au centre, physiquement, de l'Assemblée, de l'hémicycle, parce qu'il l'a demandé, pas à gauche, au centre. Et c'est un parti qui se veut celui de la France. Préparant un ouvrage de détails sur cette période, j'ai retrouvé, par exemple, des films très intéressants du Parti communiste. Un de Maurice Thorez, lorsqu'il va à Alger, en Algérie, c'est à la fin de la Troisième République. Et puis surtout, un, pour bien comprendre ce qu'est le Parti communiste français, 45-46, car lorsque deux élus, Léon de Pervenche et Raymond Vergès, rentrent dans l'intergroupe du Parti communiste français, bien, ils sont désormais dans la discipline du Parti communiste. C'est-à-dire qu'on va le voir, leurs discours sont des discours de communistes. Et il faut les comprendre comme des discours qui reprennent la logique des congrès du Parti communiste français de ces années-là. Et la logique du Parti communiste, c'est d'être le parti de la France. Il y a un superbe film qui dure une heure, que le Parti communiste a édité, vous pouvez le voir à la BNF, où le Parti communiste remonte jusqu'au Mérovingien, puis après Jeanne d'Arc, tous les rois de France. Tout ça, c'est la France. Tout ça, c'est la France qu'il aime. C'est celle de la Révolution, c'est 1848, c'est 1871. Et ça finit, bien sûr, la Libération, en disant « Nous sommes ceux qui reprenons le drapeau, le flambeau de la France. Nous sommes, c'est le titre du film, la France qui continue. Nous tous, ouvriers, paysans, intellectuels, disons avec le Parti communiste français, nous continuons la France, nous serons son avenir. Tout ça avec une musique qui emporte le discours. Donc pour comprendre, je crois, la logique des députés communistes, que ce soit les deux réunionnais, mais aussi ceux de l'intergroupe qui viennent des Antilles ou les autres, mais il faut comprendre qu'ils sont dans cette logique, dans ce discours et dans cette ambition communiste. C'est-à-dire d'une France qui intègre les colonies. C'est pas l'heure de morceler. C'est pas l'heure de la diversité. Vous lisiez le nouveau hebdomadaire du Parti communiste qui s'appelle France Nouvelle. C'est son titre, France Nouvelle, qui va vivre par la suite dans les années 70. C'est la même logique. Hein. Ou les déclarations de Louis Aragon à l'époque sur Maurice Thorez et la France, l'homme, le communiste, le français, le patriote. L'histoire dira peut-être que le grand mérite du Parti communiste, c'est d'avoir revalorisé toutes les valeurs sur le front idéologique. Nous avons repris la Marseillaise et le drapeau tricolore de nos aïeux, les soldats de l'an 2. Jeanne d'Arc est une héroïne communiste du Parti communiste français dans ces années. Je crois que c'est important d'avoir ce contexte à l'esprit pour bien saisir ce que vont être les arguments de la proposition de loi qui va arriver au 19 mars 1946. Je dis bien proposition de loi parce que, comme le souligne 10 ans après dans une revue Gaston Monnerville, ce n'est pas un projet de loi. Ce n'est pas le gouvernement qui fait proposition. Ce sont les députés qui construisent une proposition. Ce qui est aujourd'hui, en 2006, assez rare en ce sens. Hein. Souvent, c'est le gouvernement qui propose. Donc, c'est une proposition de loi qui vient, dans un premier temps, d'Aimé Césaire. Je ne rentrerai pas dans le détail. Et le texte qui, donc, est rédigé le 17 janvier 1946, annexe 295, par donc Aimé Césaire en premier, puis après, signé par tous les signataires, et dans lesquels vous retrouvez la plupart des élus du Parti communiste français. Qu'est-ce que l'on retrouve comme argument ? Dans cette première proposition de loi, on retrouve des arguments qui sont ceux de la thématique de l'assimilation. Je les développerai tout à l'heure. Et puis vous avez le 12 février, une proposition différente de Gaston Monnerville, beaucoup plus ample, qui insiste beaucoup sur le fait que la Guyane est très anciennement française. Et vous avez le même jour, une proposition de La Réunion, qui elle, est le décalque de la proposition des Antilles. Gaston Monnerville, politiquement, a un parcours différent des autres élus. Si vous voulez avoir l'ensemble des textes, il y a quelque chose qui est précieux, c'est qu'en 1996, Françoise Vergès avait rassemblé tous ces textes, dont vous avez l'intégralité des débats. Si vous ne pouvez pas aller à l'Assemblée nationale, regardez ces documents, et tout à l'heure, je crois que nous entendrons des extraits d'une ou deux interventions. Donc là, il y a un livre qui permet de lire et de comprendre, et puis de vérifier surtout si mon interprétation, mon analyse pertinente, et si elle se tient, si elle est rigoureuse et si mes renvois sont correctement faits, ce que je crois. Quels sont les arguments du débat ? Le débat, il va se dérouler sur 5 jours. Et je crois que révélateur de bien comprendre comment les choses se passent concrètement. Premier jour, le débat est repoussé. Parce que le gouvernement n'est pas prêt. Parce qu'en fait, le gouvernement n'est pas dans cette logique-là. Il n'a pas ce même tempo. Il ne peut pas aller si vite. Nous sommes en mars 1946. Le général de Gaulle n'est plus là. On est dans la logique tripartie. Et vous avez un MRP et un Parti Socialiste qui freinent un peu, et un Parti Communiste Français qui pousse beaucoup plus fort. Et puis vous avez 2 débats essentiels, le 12 et le 14 mars. Ces débats, quels sont les points sur lesquels je voudrais insister dans les contraintes de temps ? D'abord, l'attachement à la France, qui revient en permanence. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons est à vous, la France. Accueillez-nous, voici 300 ans que nous attendons. C'est Raymond Vergès qui parle. Donc on est dans le même discours consistant à dire cette France-là qu'on est en train de construire, démocratique et sociale, c'est dans cette France-là que nous voulons entrer, nous voulons être intégrés. Deuxième élément, c'est l'assimilation et l'intégration. Pour notre part, je cite, nous considérons que seule l'assimilation résout les problèmes des vieilles colonies et répond à leurs besoins actuels. Aimé Césaire. L'assimilation est l'aboutissement normal de notre évolution. Gaston Monnerville. Depuis toujours aussi, nous avons demandé notre intégration à la France. Hier, quand elle resplendissait de tout son éclat, nous voulions nous fondre en elle, nous fondre en elle. Aujourd'hui, que sa puissance a été amoindrie, que la trahison de ses élites officielles, que les cruelles épreuves, que le massacre organisé par les brutes savantes l'ont si atrocement blessé, notre volonté n'est que davantage affermie. Raymond Vergès. Et vous avez un passage, cite comme ça de mémoire, de Léon Le Pervenche, insistant sur le fait que il n'y a pas de différence culturellement entre la Réunion et le reste de la France. On n'est pas dans une recherche d'identité en 1946. On est dans la logique, on cherche à entrer dans l'ensemble français. Le dernier point, c'est celui de justice et d'égalité sociale. Il fait référence à l'histoire de France, à 1789, à 1848, en insistant sur le fait que la France a déjà donné la fraternité et la liberté, et qu'il faut donner maintenant l'égalité. On a donc un lien très fort entre 1848 et mars 46. Même que l'on retrouve d'ailleurs à La Réunion aujourd'hui dans un certain nombre de campagnes, soulignant l'importance et le point de rattachement de ces deux dates. Dans cet élément de justice sociale, Léon Le Pervenche a un discours très anticapitaliste qui caractérise aussi la demande de départementalisation et qui caractérise totalement le discours de l'époque, c'est-à-dire que presque mot pour mot, thème pour thème, il reprend le discours qu'a prononcé Maurice Thorez à Vasier, un discours célèbre de Maurice Thorez, le 21 juillet 1945. De la même manière, la thématique de l'égalité de la France démocratique, sociale, est le thème qu'a développé le congrès du Parti communiste français le 25 juin 1945. À côté du château où habite le féodal, l'ancien possesseur d'esclaves, voici la case, la paillote avec son sol de terre battue, son grabat, son humble vaisselle, son cloisonnement de toiles grossières tapissées de vieux journaux. C'est contre cette misère coloniale, contre cette situation faite au plus grand nombre, que Léon Le Pervenche appelle à ce classement de La Réunion, département français. Et face à cette argumentation, vous avez un gouvernement autour du ministre Marius Moutet qui, lui, est entre réserve et réticence et qui n'arrête pas de freiner. Qui freine en jouant sur la montre, concrètement, lors des séances, mais qui freine encore plus lorsqu'on entend les rapports des commissions. Il y a quelques bijoux qui sont vraiment des extraits extrêmement brillants de la langue de bois de la commission, disant « on vous comprend moralement, on peut comprendre, on peut justifier, mais c'est trop vite, c'est trop rapide, vous êtes trop pressé, notre commission approuve, mais en même temps, bon, on voudrait gagner du temps, on voudrait surtout qu'on ne passe pas au vote. » Et lorsque le vote s'opère, vous savez, c'est un vote qui a lieu à l'unanimité. Je dis souvent et je maintiens que derrière cette unanimité, derrière ce paravent de l'unanimité, il y a à la fois l'indifférence d'un certain nombre de leaders, l'inconscience des députés s'ils ne se sont peu intéressés, le temps consacré à ces débats est vraiment minime, parce qu'il y a d'autres priorités dans la logique de l'Assemblée constituante de l'époque et qu'il y a d'autres priorités pour les Français qui ne s'intéressent pas aux débats sur l'outre-mer et sur les vieilles colonies. Les priorités de la presse, quand vous lisez la presse de l'époque, c'est ici quelques titres, c'est le prix des denrées, pourquoi les carottes valent-elles 48 francs le kilo? Voilà les gros titres. C'est 100 francs une botte de radis, c'est inadmissible. Pourquoi les œufs coûtent deux fois plus au détail qu'à la ferme? C'est ça les préoccupations mangées dans un hiver terrible, celui de 46. Tous les grands journaux consacrent peu de lignes. Un peu dans Le Monde, un peu dans l'Humanité, un peu dans le journal du MRP. Et en fait, le vote du 14 mars, qui s'exprimera, bon, bien sûr le 19 mars dans le journal officiel, il marque une unanimité qui est rare dans la vie politique de l'époque, et qui souligne surtout qu'on a rapidement balayé une question pour passer à des autres points dans l'Assemblée constituante, et que les délais qu'on a fixés, c'est-à-dire 1er janvier 47, l'égalité, l'équation, cette borne, elle ne va être que repoussée dans les années qui vont suivre. Je voudrais insister sur les réactions à la nouvelle du côté de La Réunion. L'annonce de la départementalisation, ce n'est pas l'enthousiasme dans les communes. Ce n'est pas les fêtes. Déjà, la nouvelle, elle arrive lentement. Il y a quelques rassemblements, il y a des manifestations. On appelle à fêter cette grande victoire parlementaire, La Réunion département français, avec le drapeau le blanc-rouge, avec la fête, avec la Marseillaise. Le gouverneur par intérim se félicite de l'intégration de La Réunion dans la grande famille. La métaphore familiale est très utilisée, bien évidemment. Et puis, en fait, le retour des députés. Il y a les photos, le 17 mai, par exemple, 46, Le Pervenche, Thorez, Vergès. Et lorsqu'on lit la presse, on a quelques éléments de réponse sur la position des députés à l'égard de la question plus large du colonialisme. Parce que lorsqu'on lit Le Communiste, c'est le journal de Léon Le Pervenche, on s'aperçoit que, et là on est le 31 mai 46, une des satisfactions qui est avancée par Léon Le Pervenche, c'est de dire, en travaillant pour que La Réunion devienne département, on n'a certainement pas négligé les colons qui se sont installés à Madagascar. C'est-à-dire que s'il y a eu un discours anticolonial, il n'est pas pour Madagascar en tout cas. On a renforcé la position de La Réunion, département français, dans le sud-ouest de l'océan Indien. Mais là, lorsqu'on lit le discours, il se félicite à la fois des mesures qui ont été prises et en même temps de l'intervention en vue de faciliter l'installation de colons réunionnais à Madagascar, qui bénéficieront d'une prime d'expatriation. Cette logique de construction du département dans le contexte politique. Elle tombe sur le mur du référendum de mai 1946. Le référendum est très peu étudié dans les ouvrages. Pourtant, il y a quelque chose de très singulier. C'est que globalement, en France, la réponse est non. À La Réunion, c'est oui. Et dans mon analyse, je considère qu'un vote sur un référendum n'est pas un vote lié aux personnes, aux paramètres personnels. Certes, il joue. Mais que le débat d'idées est important. Et que seul appelait à voter pour le oui, le Parti communiste français. Et donc, c'est un succès pour les deux représentants du Parti communiste français que le oui l'emporte à La Réunion. Donc, il y a jusqu'en mai une très forte influence, prégnance des idées portées par les deux députés et globalement des idées donc communistes. Bien qu'on ait fait reproche à ces deux députés d'avoir laissé l'étiquette Kratz le temps d'un vol, ils auraient changé, passant de Kratz au Parti communiste français. Mais vous savez, les élections législatives, l'assassinat d'Alexis de Villeneuve, très présent dans les cultures politiques, Dugauvin y a consacré un article, une partie d'article, cet assassinat, presque jour pour jour, 60e anniversaire, va constituer une borne, un point d'achoppement. Et il y a un après mai-juin 1946 qui commence dans la vie politique à La Réunion. Et c'est là que l'histoire et les mémoires vont se mêler, vont se croiser. Mais en même temps, si je veux brosser rapidement l'après mai 1946, il se nourrit du débat de la première assemblée constituante. Il se nourrit de sa logique. L'année 1947, cette année terrible, pour reprendre l'expression d'un certain nombre d'historiens, dans un contexte mondial bipolaire, de guerre fraîche avant d'être froide, voilà naissance de deux partis qui sont des partis nationaux, le RPF, et à La Réunion, le RPF va naître parti gaulliste très rapidement au regard de la démarche du général de Gaulle. Et une réponse rapide est la création du Parti communiste français de 1947 jusqu'en 1959. Ces deux partis vont représenter l'affrontement autour de l'axe anticommuniste à partir de 1946 pendant 4 décennies à La Réunion. Les figures de ces blocs changeront, mais la thématique de l'anticommunisme perdure. Elle va d'autant plus perdurer que la départementalisation est là dans son esprit, dans l'écriture, mais qu'elle ne va pas se marquer sur le territoire. Et que ce que nous avons bien souligné avec l'ouvrage sur la 4e République, c'est que la départementalisation ne se concrétise pas. Que La Réunion est un angle mort de la politique de la 4e République. Que la priorité, c'est Madagascar. Paradoxalement, c'est la colonie Madagascar, et non pas le département. Et qu'au bout de 10 ans, en 1956, La Réunion est entre les grands projets pharaoniques qui sont chaque fois annoncés pour rattraper les retards, qui sont chaque fois attendus. Les journalistes qui viennent faire leur enquête depuis 1948, on a vu celle d'André Blanchet, puis après d'autres journalistes, c'est toujours la belle fille en haillons, c'est toujours le département abandonné. Quelques succès, bien sûr, sur le PALU, mais il faut attendre pour voir une modernisation de La Réunion. 1956, le début de la construction de la route littorale. Et c'est en cela le paradoxe. C'est que c'est en 1956 que se cristallise l'attente, la déception à l'aune des espérances, et qu'en 1956 qu'émergent, suite aux élections anticipées, 2 voix communistes sur 3 élus, c'est-à-dire celle de Raymond Mondon par l'alphabétique et de Paul Vergès et de Raphaël Babet pour la droite. Et le nouveau contexte, j'essaie de conclure, de ramasser mes idées pour pas déborder sur le temps, ce nouveau contexte qui s'opère au tournant de l'année 1956. L'année 1956, elle voit à la fois cette élection qui marque ce mécontentement dans l'opinion, d'avoir attendu 10 années, mais en même temps, elle souligne l'entrée de nouveaux acteurs politiques. Un nouveau gouverneur nommé par le gouvernement qui vient de sortir des urnes, Front Républicain, Guy Mollet, socialiste, qui dit des communistes, vous savez, les communistes ne sont pas à gauche, ils sont à l'Est, et qui nomme le préfet Perrot-Pradier. De nouveaux acteurs, c'est bien sûr l'émergence d'une nouvelle génération au sein du Parti communiste, marquée par Paul Vergès. Nouvelle génération qui va aller vers la construction du Parti communiste réunionnais en 1959. Et c'est en même temps un large contexte, pas simplement le contexte de la décolonisation, mais c'est aussi un contexte différent. L'année 56, on la célèbre pour son 50e anniversaire aujourd'hui, il y a un certain nombre d'articles, de jeux quotidiens, d'hebdomadaires qui soulignent. C'est le problème du communisme à Moscou. C'est la situation chinoise. C'est bien sûr la conférence de Bandung. C'est les rapports entre la France et l'Algérie. C'est la situation du canal de Suez. Et à la Réunion, j'allais dire de manière très forte, c'est avant 56, ce conflit 53-54, deux quartiers français, qui a fédéré là, sur le thème du problème de la canne à sucre, une lutte dans laquelle le Parti communiste français, encore, s'est révélé un acteur essentiel, et qui change de ce point de vue-là le tempo de l'histoire nationale, qui arrive avec une thématique réunionnaise au regard du tempo de l'histoire politique française. Pour conclure, j'insisterai sur ce tournant en termes de génération politique. C'est la fin de toute une génération politique, les noms qu'on a évoqués, la mort de Raymond Vergès, la disparition de Raphaël Babet, Léon Le Pervenche qui perd en influence, on le voit lors du congrès de 1959. C'est la situation de la première modernisation, j'ai parlé de la route littorale, mais c'est aussi les nouveaux modes de consommation qui commencent à s'installer de manière faible. Mais on le voit bien, par exemple, sur les clichés de M. Albany, la société réunionnaise commence à changer dans ses moyens de transport. C'est petit, c'est infime. Mais dans ces années 55-56, on voit des choses qui changent. Et de ce point de vue-là, ces clichés sont riches d'intérêt. Et c'est dans cette construction autour d'un modèle de développement qui s'opère que se construit, je crois, que se cristallisent ces deux voies qui vont marquer les années 60-70 autour de l'alternative ou de l'alternance, comme on voudra, soit de construire dans l'intégration à la République française cette départementalisation et la mettre vraiment en route, ou l'autre voie, celle de l'autonomie démocratique et populaire, slogan du Parti communiste réunionnais, 1959, année symbolique, bien sûr, avec la venue du général de Gaulle, qui cristallise là, lors de sa présence, les débats autour de ces deux axes possibles en termes de développement et d'histoire et de cycles.